Et aujourd'hui, autour du dernier livre d'Emmanuel Todd, Qui est Charlie ? On s'interroge gravement pour comprendre les raisons des manifestations du 11 janvier. Car ceux qui se sont sentis Charlie il y a 3 mois l'ont fait sur la base d'un mot d'ordre comparable au United We Stand, nous sommes debout ensemble américains, consécutif aux attentats du 11 septembre 2001. Ensemble, nous nous sommes réunis non pas pour penser la même chose, mais pour rejeter du même voix ce qui menace les conditions même du vivre ensemble. Pourquoi prendre les manifestants pour des imbéciles ? Chacun sait lorsqu'il participe à un mouvement de ce type qu'il défilera avec des gens avec qui il est en désaccord, qu'il sera récupéré politiquement et même instrumentalisé. Chacun sait aussi que les manifestations ne servent à rien contre les terroristes, c'est à nous qu'elles servent. Pour conjurer la terreur, les manifestations produisent de la chaleur démocratique quand dehors il fait froid. Les manifestations de janvier n'étaient évidemment pas la réponse idéale aux terroristes, tout simplement parce qu'il n'y a pas de réponse idéale en pareil cas, mais leur absence aurait été insupportable. Qu'aurait-on dit, qu'aurait-on pu dire si l'on avait massacré en France des journalistes, des flics, des juifs, sans aucune réaction du corps social? C'est vrai, la France n'avait pas assez réagi quand Mera s'en était pris à une école juive quelque temps auparavant. Raison de plus pour ne pas manquer le rendez-vous du 11 janvier, ces quelques jours de janvier. La France a été fraternelle et la fraternité n'a pas d'effet secondaire indésirable.
France Inter, service public, Guillaume Erner.
Et puis on parle d'une autre fraternité, la fraternité du camping.
Hey, salut, tu vas bien? C'est Franck Dubosc. Dis-moi, tu aimes le camping? Attention, je te parle du vrai camping. Barbecue, sex and fun. Eh bien, tu sais quoi, je vais te montrer ce que c'est qu'un vrai campeur. Allez, pour toi public, aujourd'hui, c'est le mois de juillet. Viens.
D'autres caricatures, les caricatures du camping. On va voir qu'il en est autrement aujourd'hui. On en parle avec Bruno Lacroix. Bonjour Bruno, vous êtes rédacteur en chef du magazine Camping Caravaning. À côté de vous se trouve Gavin Clément-Ruiz. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez rédigé, publié le dernier guide du routard sur nos meilleurs campings en France et vous nous donnerez votre sélection tout à l'heure, Gavin. À côté de vous, Olivier Siros, bonjour. Vous êtes sociologue, professeur des universités en STAPS et vous avez beaucoup travaillé sur le camping. Vous nous expliquerez pourquoi les Français adorent le camping. Et enfin, Guilhem Ferraud, bonjour. Vous êtes président de la FNHPA, la Fédération Nationale de l'Hôtellerie de Plein Air. Et alors, il y a quelque chose de très important, Guilhem Ferraud, c'est que la France est championne d'Europe du camping. C'est très important dans l'accueil de nos touristes, des touristes français, mais aussi des touristes étrangers. Pourquoi cette force de la France dans le camping ?
Je crois que d'abord, en France, le camping s'est développé sur un modèle social. Mais aussi, on est à la croisée des chemins, c'est-à-dire que lorsque les Européens voulaient descendre dans le sud, ils traversaient forcément la France. Et je crois que ça leur a permis de découvrir les profondeurs de la France et d'avoir envie d'y rester.
Cette première place est une première place qui n'est pas disputée. Il y a une offre extrêmement importante. Il y a 8300 campings en France et ce sont des campings qui offrent différents types de confort avec évidemment différents types de prix. Alors je donne juste quelques chiffres sans embêter les auditeurs avec ça. Un camping une étoile, c'est environ 16 euros pour une nuit et un camping 5 étoiles, c'est environ 42 euros pour une nuit, ce qui signifie que finalement, il y a différents types d'hébergements. Il y a une large gamme en France qui est offerte par les campings, Guilhem Ferraud.
Oui, près de la moitié des terrains de camping européens se trouvent en France, mais parmi eux, une grande variété de types d'exploitation, des campings de tout type, des campings à la nature, des campings clubs et des campings à tous les prix, mais toujours d'un rapport qualité-prix intéressant. Alors, les prix que vous avez cités sont les prix lorsqu'on a sa propre tente et qu'on loue un emplacement, mais on peut voir qu'une famille complète peut passer des vacances de qualité dans un 5 étoiles à moins de 50 euros la nuit.
Quelles sont aujourd'hui les tendances? On a vu que les exigences des touristes augmentaient, qu'il fallait aujourd'hui que le confort soit au rendez-vous. Quels sont aujourd'hui les différents progrès observés dans le domaine du camping?
Oui, alors la crise a amené un élément nouveau, c'est que le client n'accepte plus de passer des vacances de mauvaise qualité. En période de crise, il a besoin d'être rassuré, d'être sûr de passer de bonnes vacances. Et le niveau de qualité des terrains de camping d'aujourd'hui répond à leurs attentes.
Ça se traduit comment ?
Alors ça se traduit d'abord par des installations générales de qualité, de l'animation pour les enfants, des soirées, des piscines. Mais également, il y a un autre élément important, c'est l'arrivée de l'hébergement locatif qui a permis à des gens qui n'avaient jamais pratiqué le camping de pouvoir l'essayer sans risque.
Hébergement locatif sans risque, il n'y a pas beaucoup de risques dans le camping, sinon d'avoir une tente qui prend l'eau. Mais ce que vous voulez dire, Guilhem Ferro, c'est qu'il y a aujourd'hui de plus en plus d'hébergements en dur type mobile home, type petite hutte, on verra ça tout à l'heure, c'est très à la mode. Lorsqu'on observe les prix, on voit qu'une semaine au camping peut coûter jusqu'à 1100 euros pour une semaine dans un mobil-home de chambre, donc pour 4 ou 5 personnes. Olivier Sirost, on voit que l'argument prix n'est pas l'unique argument pour lequel les individus choisissent de partir en vacances au camping.
Non, pas du tout. Il faut éviter, je pense... Vous l'avez rappelé, à la fois la caricature, puisque l'histoire du camping est faite de caricatures. Des débuts du cinéma, où Louis de Funès incarne ce chauffeur de taxi qui part en vacances avec sa roulotte accrochée derrière en Espagne, jusqu'au film de Fabien Antoniente sur le camping. Et puis, les statistiques participent à cet écrasement d'une véritable richesse. En fait, qu'est-ce qu'il y a derrière tout cela, derrière ce phénomène ? Il y a nos racines. Notre enracinement social, nos histoires personnelles. Vous allez sur les campings de France, où qu'ils soient, vous trouvez des histoires fabuleuses de personnes qui ont rencontré l'âme sœur, qui s'y sont mariées, des valeurs qu'on a transmises, qu'on a communiquées aux enfants, des amis qu'on retrouve de manière très régulière, de façon rituelle, autour du barbecue, autour de la vaisselle.
Si vous voulez dire que quand on part au camping, c'est un peu comme si on redevenait des hommes sauvages ?
C'est un peu ça. Il y a cette belle formule de Paul Morand dans ses chroniques où il dit finalement qu'est-ce que le camping ? C'est ce retour à la vie primitive. Pas dans le sens où je vais devenir le Néandertal dans ma caverne, en renouant avec la viande crue, la
Et pourtant, Dieu sait s'il y a beaucoup de campings en Ardèche, à côté de la grotte Chauvet. Mais
c'est ça. C'est-à-dire, pour reprendre le propos de Paul Morand, le camping permet de revenir à ce qui est premier, à ce qui nous est fondamental à notre vie. Cette manière de renouer avec les autres, de renouer avec les éléments naturels, c'est très important. C'est pas par hasard si à un moment donné, la Fédération française de camping et de caravaning se transforme en Fédération d'hôtellerie de plein air. C'est vraiment qu'il y a ce désir, ce besoin viscéral de retour à la nature que recherchent régulièrement les campeurs et qu'ils ritualisent par leurs petites actions.
Il y a aussi un besoin de retour au Cabrel à intervalles réguliers. On va y revenir immédiatement. Francis Cabrel, c'est son nouveau disque. Parti pour rester, un disque choisi par Stéphanie Texier et Thierry Dupin.
Service public. 01 45 24 7000 ou sur franceinter.fr.
Il y a quelqu'un d'autre dans ta glace, entre les potions et les crèmes, tous les petits pots qui s'entassent, tu vois, le temps est passé quand même. On croyait faire du surplace, à ça on s'en est donné de la peine. On se dépense, on se démène, et même sous les pas d'une reine, la grande aiguille se déplace. On va viser l'éternité. On est tellement bien ici. On va tout faire comme si on était parti pour rester. Entre les chaos du parcours, les demi-tours, les impasses, les grandes nuits, les petits jours et tout ce qui raye la surface, on tombe chacun à son tour, entre les griffes du rapace. Le seul remède c'est l'amour, d'ailleurs c'est pour ça qu'on court d'un bout à l'autre de l'espace. On va viser l'éternité. On est tellement bien ici. On va tout faire comme si on était parti pour rester. On n'est même pas pressé. Dans un coin de mes pensées, une vie à t'enlacer, mille fois recommencer. Et c'est pour ça qu'on va rester, rester, rester. J'aurais aimé te la porter sur un beau coussin de dentelle, la niche où se cachent les clés de la mécanique éternelle. Mais l'horloge est hors de portée, et ce n'est pas là l'essentiel. Elle peut continuer de tourner, elle peut tout emporter. Je te trouve chaque jour plus belle. On va viser l'éternité. On est tellement bien ici. On va tout faire comme si on était parti pour rester.
Rester, rester, rester.
On est loin d'être lassé.
Rester, rester, rester.
Dans un coin de mes pensées, une vie à t'enlacer, mille fois recommencer. On va rester, rester, rester. On n'est même pas pressé.
Rester, rester, rester.
Pour tous ceux qu'on a blessés, qu'on aurait dû embrasser, autant tout recommencer. On va viser l'éternité. On est tellement bien ici. On va tout faire comme si on était parti pour rester.
Tente maréchale, 4 places adultes, 2 places enfants. Ventilation latérale, couture étanche, double toit, tapis de sol polyétiné. Et alors attention. La chambre d'amis, avec contre-porte moustiquaire.
Ouais, c'est une tente quoi.
Ouais. Bouger un petit peu plus quand même.
Service public sur France Inter, bienvenue au camping. Nous sommes notamment avec Bruno Lacroix, rédacteur en chef du magazine Camping Caravaning. Le matériel de camping a beaucoup évolué, Bruno, par rapport à la tente maréchale. Où en sommes-nous en matière de tente aujourd'hui?
Ah oui, effectivement, il a beaucoup évolué. Les principales évolutions aujourd'hui tiennent justement à faciliter le travail des familles qui arrivent sur le camping et notamment sur le, on a tous en tête l'image du fagot d'armature et puis
avec
de
les sardines surtout.
Les sardines après, mais d'abord le fagot d'armature et puis la toile qu'il faut essayer de monter tant bien que mal.
Voilà, pour qu'elle se colle à l'autre toile, comme ça, quand il pleut, tout est mouillé et vous pouvez vivre dans l'humidité.
Voilà, c'est ça. Non, les évolutions aujourd'hui, elles tiennent justement à faciliter ce travail de montage de la tente. Alors, on a vu les arceaux en fibre de verre qui ont permis déjà d'alléger le produit et donc pour faciliter le transport et aussi de faciliter le montage. Et aujourd'hui, on arrive à des armatures, ce sont même plus vraiment des armatures, ce sont des espèces de fourreaux qui sont gonflables. Et en fait, la tente, on la déplie sur son emplacement et on la gonfle, tout simplement. Et les armatures gonflables font une structure qui est relativement rigide et qui permet de s'installer en un rien de temps.
Alors, on ne va pas se mentir quand même, Bruno. La croix, pour déplier la tente, il n'y a souvent pas de problème. C'est pour la replier, et je pense notamment aux tentes Quechua Igloo, qui réclament une sorte de dextérité que je n'ai pas et qui font que c'est très facile de les lancer et de les déplier. Mais alors ensuite, pour les replier, bonjour.
C'était un problème. Ça ne l'est plus. Ils ont résolu le problème. La tente 2 secondes, effectivement, elle a été million d'exemplaires.
2 secondes pour la déplier et 10 ans pour la replier.
Voilà. Et en fait, le problème a été résolu il y a 2-3 ans, je crois, puisqu'ils ont conçu un système qui fait qu'en 10 secondes, à moyen d'un lien, on n'a plus qu'à poser le pied sur la tente, tirer sur un lien et elle se replie quasiment automatiquement.
Faut vérifier qu'elle est vide avant.
Même une anecdote, des anecdotes savoureuses à propos de cette tente, puisque c'est la tente la plus abandonnée sur les campings, d'une part, et sur les lieux de festival, parce que les festivaliers n'arrivaient pas à la replier, du coup, la laisser sur place. Et sur pas mal de campings aussi, elle sert maintenant de tente d'appoint quand les campeurs n'ont pas ce qu'il faut.
Christian nous appelle de Bourges. Bonjour Christian.
Bonjour Guillaume.
Nous vous écoutons, vous êtes en direct sur l'antenne de France Inter.
Oui, alors moi je suis un vieux, 65 ans, j'ai commencé à camper vers 1970 et je regrette cette débauche de matériel. Ça devient sophistiqué. Les gens arrivent, alors là on parle de tente, mais après vous avez l'escalade, hein, les caravanes, les camping-cars et tout. Les gens ont du matériel, groupe électrogène, pourquoi pas. Dans les campings c'est peut-être interdit et encore, il y en a qui en usent. Dans la nature c'est vraiment regrettable. Et si vous voulez, on s'éloigne de la nature. Et puis après, peut-être une conséquence de ça, c'est que les tarifs, il est difficile de trouver des campings qui soient bon marché.
Alors ça, c'est une question qui s'adresse à Guilhem Ferraud, qui représente ici la Fédération Nationale de l'Hôtellerie de Plein Air. Merci beaucoup Christian pour cette question. On a l'impression que les campings sont de plus en plus des hôtels de plein air, comme le dit le titre de votre fédération, et qu'on s'éloigne donc d'un esprit originel, ce que regrette Christian.
Alors, tout d'abord, pour répondre à sa question, où est-ce qu'on peut mettre des groupes électrogènes? Dans les campings, on n'en a pas besoin, puisque ça fait du bruit, et dans les campings, on peut se brancher directement sur l'électricité. Ensuite, sur les prix, on trouve toute une variété de terrains de camping à 10 à 20 euros par nuit pour celui qui possède sa tente, qui permet à une famille complète d'être hébergée pour une nuit. Je pense que c'est un rapport qualité-prix qui est intéressant.
Il faut dire aussi à Christian.
Gavin Clément Ruiz qui a réalisé le guide du routard de nos meilleurs campings.
Exactement, et dans le routard, on s'est amusé à mettre des aires naturelles de camping qui sont gratuites. Donc franchement, et des fois ça va jusqu'à 0 euros, ce qui est quand même assez sympa, jusqu'à 4-5 euros. C'est la ville qui fait payer, mais franchement, on peut encore trouver des aires naturelles.
Où en trouve-t-on par exemple?
Il y en a partout en France. Franchement, je ne vais pas vous en donner une précisément, mais c'est vrai que tout dépend aussi du terrain. On indique les qualités, est-ce qu'il y a de l'herbe, est-ce que c'est du gravier, etc. Mais on peut s'installer sur des aires naturelles de camping encore gratuitement en France et elles sont dans le routard.
Marion nous parle justement du camping sauvage. Savez-vous quel pays autorise le camping sauvage, nous demande Marion. Ça n'est pas forcément une tradition française, Olivier Sirost.
Alors, le camping sauvage à l'origine, c'est le camping. Il faut bien comprendre qu'en France, les premiers essais, fin 19e siècle, c'est ça. Ce sont des communautés de jeunes d'une trentaine d'années, plutôt protestants, plutôt d'un milieu bourgeois, qui partent à la conquête de la nature, qui s'installent à droite à gauche et qui discutent avec le garde forestier ou avec l'agriculteur du coin pour pouvoir s'établir. Alors aujourd'hui, il y a quand même une migration de ces adeptes du camping sauvage, entre guillemets, qui restent quand même relativement flous, mal définis du point de vue des affichages, il y a toujours une ambiguïté du point de vue de la législation, mais il y a quand même une forme d'éden pour le camping sauvage au niveau de l'Europe de l'Est et notamment du Sud-Est. Si vous allez du côté de la côte d'Almate ou autre, il y a encore des espaces relativement heureux pour ces gens qui ont soif de liberté.
Et j'ai envie de préciser pour notre auditrice que, par exemple, il y a l'Office national des forêts, donc on ne peut pas être au plus près de la nature, j'ai envie de dire, qui s'est accoquiné en fait avec la chaîne Utopia. Et donc, il s'installe maintenant il crée ex nihilo complètement des campings, alors sans dénaturer l'endroit, ce qui est assez, qui est à la base du camping. Normalement, on doit pouvoir repartir de l'endroit sans l'abîmer. Donc là, justement, ils ont créé ces campings où on s'installe avec des tentes assez vraiment extraordinaire et on s'installe dans des lieux qui n'étaient pas exploités auparavant et qui sont en accord avec l'Office national des forêts. Comme ça, on est vraiment au milieu de la nature. Vous avez l'impression de dormir seul au monde à côté des bestioles et sous les arbres.
Anne est au standard, elle nous appelle de Bretagne. Bonjour Anne.
Bonjour.
Nous vous écoutons, Anne de Bretagne.
Alors, je voulais vous parler du GCU. C'est une association de campeurs qui existe depuis 1937. Il s'appelle le Groupement des campeurs universitaires et qui représente une centaine de terrains en France où le principe de base est l'autogestion. Donc voilà, chacun est appelé à son tour à participer aux tâches d'accueil ou de ménage du camping. Il n'y a pas de gérant et il y a plutôt des animations culturelles ou sportives que des animations ludiques style danse des canards et beaucoup de bruit quoi.
C'est un camping France Inter quoi.
Exact.
Olivier Sirost, pour les campings culturels.
Alors, pour les campings culturels, le GCU, c'est quand même quelque chose qui est spécifique en France. Martine Lefeuvre-Déhaute, qui a écrit un livre sur les campeurs de la République, les campeurs du GCU, montre en fait que c'est une utopie qui est portée par les hussards noirs de la République. Vous savez, à un moment donné, les instituteurs qui n'étaient pas payés pendant leurs vacances et qui, finalement, trouvaient dans le plein air, dans le camping, une opportunité de continuer leur mission d'éducation, parce que le camping porte un projet éducatif en soi dès le départ, et qui ont profité de ces modes de pédagogie autogérés, comme les auberges de jeunesse ou comme les terrains de camping. Et là, on a vraiment une initiative purement française.
une initiative purement française, alors qui est en décalage, Guilhem Ferraud, avec l'évolution que l'on voit dans le reste du camping, puisque malgré tout, ce à quoi on assiste, c'est une élévation du niveau de prestation des campings, et la plupart des gens veulent aujourd'hui, non pas du camping sauvage, mais de l'hôtellerie de plein air.
En fait, ce que recherchent les gens, c'est à la fois ce qui a fait le succès du camping à l'origine, c'est-à-dire passer des vacances dans un espace de liberté, de convivialité, pouvoir rencontrer facilement ses voisins et être dans un environnement sécurisé. Ça, c'est vraiment la grande recherche du client aujourd'hui. Après, quel que soit le mode d'hébergement, on peut être sous la tente, la caravane ou dans un mobil-home confortable, mais toujours dans la nature.
Gavin ?
Ce qui est intéressant aussi, c'est au niveau des activités. On voit aujourd'hui des campings, Madame disait c'est pas la danse des canards, mais en effet, par exemple, il y a des campings dans le sud de la France qui sont réservés non plus aux enfants, par exemple. Ils interdisent les enfants de 3 ans à 18 ans. Mais bah, pourquoi ? Parce qu'en fait, ils proposent des activités autres que la danse des canards.
C'est des campings mauvais genre, quoi.
Et ben, non, en fait, par exemple, ils vont au lieu de faire atelier disco ou belote, ils vont faire on va écouter du jazz et on va faire du poker. Voilà, alors ça c'est par exemple, il y en a un au Rose du Roi.
Les enfants aiment beaucoup le poker.
Oui, alors ça va être un petit peu plus compliqué à expliquer pour les règles. Mais voilà, c'est des activités qui sont nouvelles et que on s'amuse à recenser nous dans le routard.
En tout cas, on voit que le camping a beaucoup évolué, le matériel a beaucoup évolué et Lenora Krief est allée tester les sacs de couchage avec Alex Vizorek. On en parle tout de suite après Crosby, Stills, Nash & Young, Carry On.
One morning I woke up and I knew you all. A new day, a new way, and new eyes to see. Go your way, I'll go mine. Keep going. The sky sun, he come, the world's all around. Rejoice, rejoice, we have no choice but to carry on. The fortunes of fables are able. We'll be right back.
Chanson de Crosby, Stills, Nash & Young qui était à Woodstock où il y avait beaucoup de campings sauvages, car nous avons beaucoup de questions sur les emplacements tout d'abord de campings gratuits. Gavins, est-ce que vous pouvez nous en donner, car vous avez rédigé le guide du routard de nos meilleurs campings?
J'ai relevé la mission. La force est avec moi. Sauf terre de Rouergue, on a une aire de camping qui est gratuite. Et donc, alors, faut pas s'attendre à un équipement au top. Hein. Bien sûr, vous avez le bout de terre, le bout de pelouse. Et vous pouvez juste payer votre douche 1,50€ si vous en avez besoin.
Donc, voilà, donc un exemple de camping gratuit. Et puis, nous avons également beaucoup de questions sur le camping sauvage. Annie est au standard. Bonjour Annie.
Bonjour.
Nous vous écoutons Annie.
Eh bien, en Suède, on peut camper n'importe où. C'est un camping sauvage.
Il y a n'importe même où, n'importe où.
Oui, n'importe où. Et il y a même des endroits qui sont aménagés avec des barbecues. Et à côté, il y a une petite cabane où il y a du bois qui est coupé. Et il y a des endroits aussi où il y a une petite maison en bois où on peut se réfugier si vraiment il fait trop mauvais. Donc j'ai fait toute la Suède avec mon compagnon et sans problème.
Ce qui est évidemment une différence avec la France, Olivier Siros, cette manière d'envisager les vacances en plein air, c'est une manière peut-être un peu étrangère de ce que l'on a l'habitude de voir en France.
Alors, étrangère, pas au début, parce que je rappelle le départ des formes de polémique, du camping sauvage, etc. En fait, les premiers arrêtés préfectoraux datent de 1937 au niveau de la réglementation du camping, et ce sont des hôteliers, c'est l'hôtellerie classique dans le département du Var, qui portent plainte contre une concurrence déloyale. Hein, quels sont ces gens qui s'installent impunément sans payer un centime en bord de mer et qui viennent envahir le littoral là où les hôteliers font leurs bénéfices? Et là, il y a vraiment un télescopage relativement fort qui se produit.
Mais Guilhem Ferraud, vous qui représentez justement la Fédération Nationale de l'Hôtellerie de Plein Air, on voit que le camping c'est un monde. En réalité, il y a toutes sortes de campings pour toutes sortes de vacances.
Il ne faut pas oublier qu'il y a chaque année 9 millions de clients qui passent leurs vacances en camping. On peut difficilement imaginer qu'on n'ait pas organisé le système si on avait 9 millions de Français qui soient répartis dans la nature sans aucune organisation. Donc en France, il n'est pas interdit de camper en dehors des campings. En fait, le camping sauvage est autorisé sauf là où il est interdit. Et en tout cas, il faut toujours l'autorisation du propriétaire du terrain pour planter sa tente.
Et puis, pour planter sa tente, il faut avoir un matériel adéquat et notamment un sac de couchage. C'est quelque chose de crucial et c'est le test du jour dans Service Public.
Un, deux, un, deux.
J'ai testé pour vous la pilule Nobab. Je ne peux rien dire encore, mais il n'est pas impossible qu'il faille la prendre deux fois par jour.
Un, deux, un, deux.
Nous allons maintenant faire le test de capacité à l'autorégulation thermique. Mettez vos casques.
Bonjour Lénore Akrieff.
Bonjour Guillaume.
Je dois dire aujourd'hui que vous avez pris tous les risques pour tester un sac de couchage. Vous êtes allé dans un endroit très froid, ça c'était pas risqué, mais vous y êtes allé avec Alex Vizorek et ça, évidemment, ça n'était pas n'importe quel effort.
Et oui, Alex Vizorek qui co-présente chaque jour avec Charline Coeur son émission Si tu écoutes, j'annule tout, a accepté de passer une petite épreuve périlleuse. En effet, la température de confort d'un sac de couchage est souvent le premier critère d'achat.
C'est vrai.
En fonction de votre destination, c'est elle qui déterminera la qualité de vos nuits sous la tente. Alors pour mieux s'en rendre compte, nous avons réalisé ces essais dans notre propre laboratoire avec Benoît, responsable vendeur chez Intersport, et Alex Vizorek, notre cobaye donc. Nous sommes descendus au sous-sol de la maison de la radio où se trouvent les chambres froides.
Les chambres froides donc de la cantine.
Tout à fait.
Ah bah d'accord, donc vous êtes allé au milieu des côtelettes pour tester des sacs de couchage avec Alex Vizorek.
Tout à fait, trois modèles de sacs de couchage différents.
ça commence à faire un peu peur là.
Si 11h35, je suis pas en haut, on vient me chercher.
Charline est au courant.
Charline sait qu'il pourrait m'arriver des bricoles.
Et il y a quand même une émission à assurer à 17h.
C'est surtout que moi je m'étais engagé à Radio France pour faire un travail intellectuel, pas pour faire Koh-Lanta. Donc je tiens à remercier Guillaume Hernel et son équipe.
Est-ce que vous plantez la tente avec les amis de temps en temps ?
Jamais. J'ai une phobie du camping. C'est très rare. C'est campingophobie.
Paraît-il que le camping est assez réputé sur la côte belge en plus.
Ah oui, non, le belge, peut-être même plus le flamand, aime bien camper. Donc c'est vrai. Et puis chez nous, il y a un climat quand même qui est pas toujours top. Donc un bon sac, ça me semble être une vraie nécessité.
Justement, on va voir quels sont les critères pour choisir un bon sac de couchage. Est-ce que vous pouvez me dire de quel modèle il s'agit là ?
Il s'agit du Baikal 750. Donc c'est un sac de couchage relativement léger, 750 grammes. C'est l'entrée de gamme chez la marque Millet. C'est une super marque sur le camping. Et celui-ci, vous pouvez l'utiliser jusqu'à 0, moins 2 degrés.
Bon bah c'est bien, là on va le tester à 2 degrés. Et donc c'est un sac vendu à 79,99€. Ouais. Allons-y.
Bon ben je me couche.
L'avantage de ce sac, c'est qu'il peut être jumelé avec un deuxième sac.
Donc si on pécho au camping, on peut éventuellement solutionner l'affaire.
Je vais te faire n'importe quoi.
Oh. Alors aidez-le peut-être.
Si je le ferme pas, je décède, donc... Je vais trouver la solution, ça je peux vous le dire. C'est l'instinct de survie qui parle. Alors c'est rigolo parce que j'ai un peu froid au front, mais et pour tout le reste, je pense qu'il fait chaud.
Et c'est vrai que là, la tête n'est pas couverte. Hein.
Si, il peut la couvrir. Il a.
J'avais pas vu la capuche. En revanche, le monsieur de Radio France nous a enfermés, vous vous en rendez bien compte. Donc là, non, il faut aller chercher les autres sacs. Hein.
Monsieur ?
Et voilà. Il est bien. Oui, on était pas à deux, pourquoi vous êtes pas venu me rejoindre ?
Mais écoutez, c'est un sac de couchage d'une place, Alex.
Oui, enfin, vous dites ça, elles n'ont pas toutes dit ça à l'époque.
Et vous avez envie de partir au camping, là, je le sens.
Je commence, j'avais pris Ibiza comme un con, et en fait, je me demande si je vais pas aller dans le Gers faire un peu de camping.
Un deuxième test sur un deuxième sac.
Il est moins chic.
C'est le premier prix.
Ah, c'est là qu'on va attraper un rhume. Ouais. Bah oui, on va le tester.
Donc premier prix, Watt, toujours polyester, donc pas de plumes. C'est vraiment le sac à dos basique, un premier prix.
De couchage, je vous ai trompé.
J'ai dit quoi ?
Sac à dos ? Oui, mais peut-être qu'il ne sert que de sac à dos.
Cela dit, il doit avoir au moins l'avantage d'être léger.
Il n'est pas très léger. C'est pas le plus léger, c'est pas le plus compact. Ça, c'est vraiment pour la personne qui recherche un prix, avant tout.
D'accord.
20 euros le matelas.
Alors, faut rentrer dedans, encore une fois, ça c'est aussi tout un défi. Je vous laisse le temps quand même de vous sentir bien dedans.
Je progresse en fermeture. Oui, effectivement, il doit faire moins chaud dedans. Ouais, parce que je sens même le froid du sol, ce qui tout à l'heure n'était pas le cas. Voilà, achetez le précédent.
Une nuit dans les Hautes-Alpes avec celui-ci, ça vous fait peur ?
Non, mais à mon avis, par exemple, si vous allez sur la plage et qu'il fait beau, ça peut peut-être suffire. Mais pour tout ce qui est Mont Blanc, non.
Ça, c'est
l'assurance d'essai.
Donc le dernier modèle, c'est un sac de couchage haut de gamme.
Oui. Expédition Grand Nord, il va jusqu'à moins 30. C'est de la plume d'oie, donc c'est vraiment la meilleure qualité. C'est vraiment un très très bon sac de couchage. Ouais.
Alors monsieur, est-ce que vous avez une chambre encore plus froide pour tester ce super sac de couchage ?
Oui, moins 18 degrés.
Bon, Alex, vous êtes prêt ?
Je vais jamais m'en sortir.
On va essayer. Voilà, je vous conseille même de voir tout ce qui est fermeture avant.
C'est assez malin de votre part. Et par contre, c'est quoi la différence des prix ?
C'est pas le plus cher, mais ça fait partie vraiment des plus chers. Il est à 300 euros.
Donc là, on était à peu près 20 euros, 80 euros et là, 300 euros. Hein. Allez, c'est parti. Ouh là là.
Vite, vite. Oh, mais il fait noir dedans ! Oh là là. Je vous cache pas qu'il a raison que dedans... Bah, moi, à mon avis, je vais survivre plus longtemps que vous.
Donc vous vous sentez bien, parce que nous, on est juste gelés,
vous
en fait.
Vous vous rendez pas compte, hein, vous. Mais alors, j'ai un léger froid aux oreilles. Hein, à mon avis, c'est sans doute dû au moins 18. Mais dedans, pour l'instant, ça va. Je sais pas si j'y ferai la nuit par plaisir. Mais
voilà, nous, on a compris, vous vous sentez bien dedans. C'est l'essentiel.
Ne me laissez pas, quand même.
À l'aide.
Oui, faut pas vous oublier.
Non, nous oubliez pas. Je vous rassure, je n'ai pas laissé Alex Vizorek dans cette chambre froide à moins 18 degrés. Sain et sauf, vous le retrouverez à 17h dans l'émission Si tu écoutes, j'annule tout. Et son livre, Chronique Antalis, sortira en librairie le 11 mai, une coédition Kéro France Inter.
Un reportage qui a coûté cher parce qu'il y avait deux primes de risque, celle d'Alex Vizorek et la vôtre, Lénora Krief. Merci pour ce reportage. Bruno Lacroix, ce test de sac de couchage, qu'en pensez-vous ?
Bah, il correspond à une... À l'éventail de ce qu'on peut essayer de trouver sur le marché au niveau des sacs de couchage. Heureusement, pour les campeurs qui partiront cet été, ils n'auront pas besoin d'aller tester le plus extrême. Les sacs
Attendez, on ne sait pas encore quel temps il va faire cet été.
Oui, mais quand même, moins 30 degrés, on espère avoir un peu mieux. Et voilà, pour une famille, pour les besoins d'un séjour estival en tente, le sac de couchage de premier prix convient très bien. Et pratiquement pour le prix du plus élaboré de ces sacs de couchage, on peut avoir un équipement de camping complet pour une famille de 4 personnes.
Qu'est-ce que vous conseillez dans ce domaine ? Donc on a vu les tentes, on a vu qu'il y avait eu un progrès même pour les tentes 2 secondes qui maintenant pouvaient se replier. On a vu donc les sacs de couchage. Pour le reste du matériel, Bruno Lacroix, quels ont été les progrès et les principales innovations ?
Au fil des ans, c'est les aspects pratiques et légèreté surtout qu'on a essayé de travailler, parce que d'abord les voitures sont de plus en plus compactes, donc pour le transport c'était important aussi d'avoir du matériel de camping qui soit léger et compact. Donc on a beaucoup travaillé dans ce sens-là, on a eu la fibre, on a eu les toiles synthétiques maintenant qui sont beaucoup plus légères. On peut avoir une tente familiale aujourd'hui, 4 places, 2 chambres avec une petite avancée qui pour à peine 250 €. Et donc pour le prix d'un sac de couchage à 500 €, on peut même avoir table, chaise, glacière, et un barbecue, une petite cuisine et un équipement complet qui va durer 7, 8, 10 ans. Quoi.
Ou alors on peut camper sans tente et regarder Les Étoiles, c'est la chanson de Catherine. Et tout de suite après, on va évoquer le camping sauvage et les autres formes de camping.
Toutes les étoiles, l'aurore boréale, je te donne ce que je n'ai pas. Mais comme tu crois que tout est à moi, toujours, même le point du jour, alors tu t'en fous, mon petit chou. Les anges blonds, les nuits sans fond, je te donne toutes les saisons. J'ai l'impression d'être un dieu au fond. Tout est à toi, comme eux.
son de ta voix.
Service public sur France Inter, un studio transformé en terrain de camping et un auditeur qui nous attend au standard, peut-être sous la tente, Guy, qui nous appelle de Midi-Pyrénées. Bonjour Guy.
Bonjour, bonjour à toute l'équipe.
On vous écoute Guy.
Je voulais simplement témoigner d'une expérience puisque j'ai appris le camping dès ma première année de naissance. J'ai appris à marcher dans un terrain de camping en 1952, camping que je pratique toujours avec mes grands-enfants, avec mes enfants, puisque j'ai encore une fille aujourd'hui qui a 7 ans et une de 11 ans. Ce que je voulais noter, c'était cette ouverture du camping, effectivement, à beaucoup de tranches de la population, et c'est une bonne chose. Le problème, c'est que à l'époque du camping que l'on pratiquait, il y avait des règles bien établies au niveau du camping. J'étais issu d'une famille d'enseignants, on avait la chance de pratiquer le camping dans les camps GCU, qui était un camping universitaire. Donc, pour vous situer un peu le décor, on arrivait dans le camping au début de l'été, et on devait faucher pour pouvoir se faire les emplacements et nettoyer, voilà. Ce que je remarque maintenant, malheureusement, c'est que d'une part, les gens ne respectent plus les règles de la vie commune dans un camping, notamment au niveau du bruit, au niveau de la propreté, de l'hygiène dans les toilettes, et que c'est un peu dommage, cette ouverture qui s'est faite dans toutes les couches de la société, il le fallait, mais que les gens ne respectent pas, parce que être campeur, c'est une mentalité, et c'est une forme de camping que l'on pratique en respectant la nature et en respectant les autres. Et c'est malheureusement plus le cas maintenant.
Votre témoignage, Guy, corrobore beaucoup d'autres témoignages reçus. On nous dit par exemple, une auditrice de Corse nous dit qu'elle n'a rien contre le camping sauvage, mais qu'elle aimerait bien que la Corse ne se transforme pas en déchetterie après le départ des campeurs sauvages. Votre avis à ce sujet, Olivier Siros, vous qui êtes sociologue et avez étudié les campeurs et le camping?
Alors, c'est vraiment l'esprit nostalgique hein, des débuts qu'on entend derrière ces témoignages. Il faut rappeler que dans les années 30-40, on distinguait déjà les vrais campeurs des saucissonneurs. Et des papiers gras. Saucissonneurs, c'est-à-dire la tradition qui venait de la ville, de l'usine, où on coupait la rondelle de saucisson sur le pouce et où on laissait ses détritus à même le sol. Alors que le vrai campeur, c'est celui qui, une fois qu'il avait enlevé son tapis de sol et sa tente, du revers de la main redressait l'herbe. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça dans les débuts du camping qu'on retrouve aujourd'hui, qui est la sensibilité écologique que nous traversons et qui devient un motif de plus en plus fort pour ceux qui retournent à la nature sous la tente, le mobilhome et ses diverses modulations.
Et pour ceux qui vont dans des terrains de camping, Guilhem Ferro, Cathy nous dit qu'il y a un problème de prix, car les campings sont de plus en plus chers, nous dit-elle, et qu'il y a également un problème de surpopulation dans certains campings avec une promiscuité qu'elle juge comme étant difficile à supporter. Votre réaction à ce sujet?
Alors pour la promiscuité, aujourd'hui, il y a des règles. Et la surface d'un emplacement de terrain de camping ne doit pas être en dessous de 70, 80 ou 100 mètres carrés selon sa classification. Promiscuité, on ne rencontre plus de problème d'entassement aujourd'hui. L'offre suffit à la demande et on n'a pas besoin d'accepter une surpopulation. S'il n'y a plus de place sur un terrain, il y en a toujours dans le terrain d'à côté. En ce qui concerne les prix, on l'a vu tout à l'heure, il y a toute une variété de prix. On rencontre aujourd'hui des terrains une étoile pour 10 à 15 euros la nuit, des 5 étoiles à 40-50 euros la nuit. On peut louer un hébergement locatif, un mobilhome, pour 500 à 1000 euros par semaine. Mais il faut préciser, c'est le prix d'une location classique. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que dans le cas du camping, c'est toutes prestations comprises, toutes animations comprises. On n'a pas à repayer toute la journée les animations, les soirées, l'entrée de la piscine.
Bruno Lacroix pour Camping Caravaning, le magazine.
J'ajoute que il faut pas voir le camping que par le prisme justement des terrains les plus équipés, les 4 et 5 étoiles. Pour les, justement les nostalgiques dont parlait Olivier tout à l'heure, du camping un peu roots, on va dire. Il y a quand même, sans être forcément à la dure, parce qu'ils sont très bien équipés au demeurant au niveau sanitaire et au niveau emplacement et soigné, mais il y a quand même pratiquement 2500 terrains aujourd'hui, une et deux étoiles, qui donc sont tout à fait à même de recevoir les gens, qui ne cherchent pas d'animation, qui ne cherchent pas le camp, je dirais le club de loisirs, quoi, en fait, hein, c'est le camping plutôt, on va dire, un peu radical, mais c'est quand même pratiquement un tiers de l'offre, donc c'est pas négligeable.
Gavin Clément-Ruiz, vous qui avez rédigé ce guide du routard sur nos meilleurs campings en France, pourriez-vous nous donner quelques conseils pour ceux qui voudraient songer à leurs vacances d'été et à leur emplacement de camping?
C'est drastique, hein, parce qu'il y a plus de 10 000 campings en France et on en a sélectionné 1800, donc il faut vraiment avoir des critères de sélection assez difficiles. Parfois, c'est des critères très, très, très sensibles. On l'a dit, une étoile peut parfois plaire beaucoup plus qu'un 5 étoiles. Donc voilà, c'est ce qu'on s'est amusé à mettre en avant dans le routard, c'est le rapport plaisir camping, j'ai envie de dire nature et tout ça. Donc moi j'ai des campings fétiches, je vous l'ai dit, il y en a que j'aime beaucoup. Il y en a un sur la plage à Noirmoutier, le camping Indigo la Vendette, qui est vraiment super. On est les pieds dans l'eau presque, sur le sable, et c'est vraiment sympa. On n'est pas loin de la nature et on est complètement dans la nature, on est au bord de l'eau. Il y en a un qui est tout simplement, il y a des Parisiens qui n'y pensent pas, mais on peut aller camper à Paris juste à côté. Il y a le Bois de Boulogne, et sinon il y a Rambouillet qui est juste à côté si vous le souhaitez. Il y en a d'autres à Loudanvielle, par exemple. Vous pouvez aller, il y a un camping que j'aime beaucoup parce qu'il est juste à côté d'un centre de soins, de spa, de thermalisme. Et donc, on peut en profiter la journée, aller se faire papouiller et puis le soir dormir au plus près de la nature. Et il y a tous ces campings qu'on a sélectionnés dans Routa.
Une dernière auditrice très rapidement, Mina, qui nous appelle de Haute-Savoie. Bonjour Mina.
Je regrette beaucoup que vous n'ayez pas parlé du scoutisme dans le camping, parce que nous, on a été formés à ne rien laisser traîner après notre passage. Vous pouviez pas supposer qu'il y avait eu des enfants qui étaient là. On creusait notre trou pour les toilettes, on allait au torrent pour se laver, il fallait aller à la corvée d'eau, à la corvée de bois, et ça, c'était formidable. Et c'est une chose qui m'est restée toute ma vie, et j'essaie de transmettre à mes petits-enfants.
Eh bien, voilà. C'est ce que vous avez dit et c'est corroboré par Olivier Sirost, le scoutisme, le rôle du scoutisme dans le camping.
Très important, fondamental. Hein. Il faut rappeler que le premier club de camping en France est fondé par des protestants, hein, des excursionnistes qui vont être également les pionniers du camping et du scoutisme, les éclaireurs unionistes, et que de ce point de vue-là, ils vont s'entremêler avec des célébrités du camping, du plein air et de la randonnée, comme Jean Loiseau. Jean Loiseau a été un fondateur de mouvements un peu plénériste du scoutisme français, et c'est lui qui a été le rédacteur en chef de la revue Camping et qui a lancé tout ce mouvement. Donc c'est fondamental. Et puis Baden-Powell, qui était quand même le président d'honneur du camping club de Grande-Bretagne. Voilà.
Il faut rappeler aussi tout l'intérêt des campings municipaux qui ont été là juste après les premiers congés payés. Il a bien fallu installer les gens dans des endroits décents. Et donc souvent, les campings municipaux aujourd'hui sont en plein centre-ville. Les villes se sont agrandies depuis. Mais les campings municipaux ont souvent des emplacements privilégiés aujourd'hui, j'ai envie de dire. Et ils restent vraiment abordables au niveau des tarifs. Ça, c'est sympa et c'est ce qu'on a voulu mettre en avant dans le routard.
Guilhem Ferraud, comment se présente la saison qui vient pour les terrains de camping?
Le niveau de réservation est équivalent à celui de l'année dernière. Et comme l'année dernière, nous avons battu notre record en nombre de nuitées, avec 109 millions de nuitées pour 2014, on peut espérer faire une bonne saison. L'équivalent de l'année dernière serait une bonne saison.
Avec beaucoup d'étrangers, car je le rappelle, la France est championne d'Europe en matière de campeurs. Et puis, il y a une sorte de spécialité, par exemple, le hollandais dans la Drôme, région que je connais bien. Le hollandais qui campe est une sorte de spécialité locale maintenant.
Alors, chaque année, 3 millions d'étrangers viennent camper en France. Et effectivement, parmi eux, les Hollandais sont des leaders du camping. N'oublions pas tout de même les Britanniques qui ont apporté les lettres de noblesse du camping. Et à l'origine, les campeurs britanniques, c'était des gens fortunés qui ont donné une bonne image du camping parce que chez eux, c'était valorisant de partir, d'être jeune, sportif, aller en camping.
C'est génial. Tout en restant en France, vous pouvez partir en Hollande, en Belgique, en Angleterre. C'est absolument super.
Bruno Lacroix, on aurait pu parler également d'autres matériels, un matériel beaucoup plus lourd, le camping-car, qui aujourd'hui concerne quelques personnes qui choisissent ce mode de vacances.
Quelques personnes, oui, c'est 15 000 par an. Maintenant, 15 000 unités vendues tous les ans, le camping-car. Oui, c'est quand même une tendance lourde depuis une bonne vingtaine d'années. Qui a tendance d'ailleurs à supplanter la caravane, même s'ils ne sont pas forcément les mêmes clients, mais la caravane qui était à pratiquement 100 000 unités vendues à la fin des années 70, aujourd'hui est à 7-8 000. Et le camping-car, oui, c'est effectivement un outil d'itinérance particulièrement prisé.
On retrouve tout ça dans votre magazine Camping Caravaning et l'officiel des terrains de camping. Et puis le guide du routard, nos meilleurs campings en France, hébergement de plein air, signé donc par Gavins Clémente Ruiz, avec peut-être la bande originale qui ira en camping. Nagui, il faudrait nous dire quel camping vous comptez aller avec vos camarades.
Je sais pas, il faut qu'il y ait au moins de quoi faire une partie de pétanque et un beach volley. Voilà, s'il y a ça, après raccordement aux toilettes, des douches et c'est bon.
Parce qu'il y avait un camping interdit aux enfants, peut-être que ça pouvait vous intéresser.
Non, pas du tout.
Non, d'accord.
Pas du tout.
Ah, je pensais que c'était votre chambre. Bon, enfin, non, voilà, vous recevez qui alors
j'ai grandi dans des campings, c'est génial les campings, il y a des fêtes, c'est formidable. Si on peut draguer, c'est un bon plan drague. Bon, allez, on vous dit qu'aujourd'hui, nous n'avons que du bon, puisque trois grands comédiens. Il y a Isia, qui viendra chanter, mais qui est une comédienne. Mélanie Bernier, qui est une comédienne. Et Clovis Cornillac, qui est un comédien et réalisateur. Tout ce beau monde est dans la bande originale.
Et on vous écoute tout de suite après le flash. À tout à l'heure, Nagui.